Elle sert de flambeau et semblable au soleil. Elle me vivifie, éclaire tous mes pas jusqu'au seuil du tombeau. Elle est le vérité, la sagesse suprême. Par elle je connais mon éternel destin. Ce fidèle miroir me dévoile à moi-même, en me montrant mon toujours au mal enclin. Livre consolateur, inspiré par Dieu même, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur m'aime, et je sais qu'à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole, heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit, heureux qui vient du monde, incrédule et frivole, c'est ainsi un au pied de Jésus-Christ.
Prions, oui. Ô notre Dieu, nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds, au pied de Christ, au pied de ton esprit et au pied de ta parole. Et éclaire-nous dans nos cœurs pour que nous puissions voir la clarté de ta parole. Révèle nos cœurs à nous-mêmes, mais surtout révèle Christ à nos yeux. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, tous les enfants sont invités à rejoindre la classe pour une révision qui est préparée pour eux. Et je vous invite à trouver le deuxième livre de la Bible, Exode et chapitre 2. La semaine prochaine, nous aurons un invité, un pasteur des États-Unis qui sera avec nous et qui va porter le message. La semaine d'après, nous aurons le frère Vincent Dormieux qui sera avec nous et qui portera la parole de Dieu. Et puis le 31, le dernier dimanche du mois, nous aurons le repas du Seigneur et aussi, Dieu voulant, un baptême. Et donc, ce sera aujourd'hui la dernière fois, au mois de juillet en tout cas, que nous serons dans ce livre d'Exode. Alors, le texte pour ce matin, c'est du verset 23 à verset 25 du chapitre 2. Mais pour nous mettre dans le contexte, et pour nous faire voir ce qui est juste avant et ce qui est juste après, nous allons lire à partir d'Exode chapitre 2, verset 15, et jusque dans le chapitre 3. Exode 2, 15, la parole dit « Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. » Donc, l'histoire nous amène près de Moïse, et lui, il est loin d'Égypte, il est maintenant à Madian. Verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme et il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom du Guershom, car, dit-il, j'habite dans un pays étranger. Et puis maintenant notre texte qui nous ramène en Égypte. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et puis nous revenons maintenant au Madian, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, et cela nous intéresse par rapport à notre texte, notez au verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Périsiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Aujourd'hui, nous allons considérer le cri de détresse d'un côté, et la compassion divine de l'autre. Alors, où est Moïse? Nous voyons que Moïse est ici dans ce texte, et depuis 40 ans maintenant, dans le pays de Madian. C'est là qu'il va habiter, c'est là qu'il va travailler, c'est là où il va se marier, et qu'il va avoir une famille, des enfants. Et c'est là aussi que Dieu viendra un jour l'appeler, comme nous venons de lire, et lui confier la tâche de libérer son peuple d'Israël. Enfin, son peuple d'Israël du pays d'Égypte. Mais au milieu de ce récit, de tout ce qui se passe dans la vie de Moïse et dans le pays de Madian, l'histoire nous ramène en Égypte pour nous rappeler, pour nous donner un regard sur ce qui se passait là-bas. Et c'est vraiment la fin de l'introduction à cette histoire. Cette histoire, elle a une introduction, c'est les chapitres 1 et le chapitre 2. Et nous arrivons, si vous voulez, à l'apothéose de l'introduction. L'histoire elle-même va vraiment commencer au chapitre 3. La situation de Moïse a maintenant été résumée. Nous savons sa naissance, nous savons ce qu'il a fait, un Égyptien, comment il a dû fuir, comment Dieu lui a donné quand même une famille, une place pour habiter. Mais avant de nous parler de l'appel de Moïse, au chapitre 3, l'introduction va clore, va terminer en ramenant l'attention du lecteur en Égypte, sur le peuple de Dieu, et la compassion que Dieu a, ce que Dieu voit, ce qu'il entend, de ce qui se passe envers son peuple. Donc regardez dans vos Bibles encore ces trois versets. Chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de leur alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors, j'avoue que si nous sommes intéressés par ce récit, ce n'est pas simplement d'un point de vue historique. C'est parce que ces histoires nous révèlent un Dieu qui est pareil, qui est le même aujourd'hui qu'il était alors. Et c'est ce Dieu avec qui nous avons affaire. Moïse a prié plus tard, « Éternel, montre-moi tes voies afin que je puisse te connaître. » Donc c'est en connaissant les voies de Dieu qu'on connaît Dieu. Donc notre intérêt n'est pas un regard historique simplement, quoique c'est une vérité historique. Nous avons cette question théologique, si vous voulez, derrière, et pratique pour notre vie. Pourquoi c'est important tout ça pour nous? Et nous allons regarder trois choses. Les circonstances en Égypte, les cris des enfants d'Israël, et puis la compassion de Dieu. Donc d'abord, arrêtons un peu nos regards sur ces circonstances difficiles. Qui est l'esclavage sans espoir de répit. Et le texte va nous attirer notre attention sur deux choses concernant les circonstances. D'abord, le temps qui passe sans amélioration de la situation. Vous voyez le début de la phrase, verset 23, « longtemps après ». En fait, dans le récit, ça nous fait avancer 40 ans. D'un seul coup. Et Acte 7 nous dit que Moïse avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Plus tard, Exode nous dira que Moïse avait 80 ans quand il s'est présenté devant Pharaon. Et cela signifie que nous sommes maintenant 80 ans après la naissance de Moïse. Hein, l'histoire de quand il était bébé, ça, 80 ans passés maintenant. Depuis le décret de ce roi d'Égypte d'exterminer tous les enfants mâles d'Israël. Et nous savons, lisons ça, que ce décret n'est venu qu'après plusieurs années, c'est-à-dire Pharaon avait tenté autre chose. Il les a mis en esclavage, il leur a donné une dure servitude. Donc on peut remonter en temps encore beaucoup plus d'années et les Hébreux ont souffert depuis combien d'années? Au moins 100 ans? Peut-être plus? Hein, nous savons qu'ils sont en Égypte depuis 400 ans et probablement donc sont esclaves depuis plus de 100 ans maintenant. Et si rien n'indique que le décret visant à jeter tous les enfants, tous les garçons dans le Nil est toujours en vigueur, ce décret a probablement été abandonné parce que ça n'a pas marché, leur condition de vie n'est pas mieux. Ils souffrent encore. Et nous savons tous que nous sommes des enfants, des hommes, des femmes, de temps. Nous ne pouvons rien ressentir en dehors du temps. Et donc le temps change beaucoup notre expérience. Prenez comme exemple un enfant. Vous commencez à chatouiller un enfant et il va probablement rigoler. Mais si vous persistez à le châtier sans arrêt, continuez son... Ces rires vont probablement changer en larmes. Pourquoi? Parce que le temps a un effet sur son expérience. Quelque chose qui était expérimenté pendant une seconde, 30 secondes, c'est une chose. Mais la même chose pendant 30 minutes ou 30 heures, ça devient tout autre chose. Et nous avons tous été malades, peut-être même alités pendant une journée. Alors imaginez... Quand vous étiez le plus mal, vous avez senti vraiment beaucoup de douleur, et puis prolongez cette expérience dans votre imagination pendant une semaine, un mois, un an. Ça devient effroyable d'y penser, n'est-ce pas? Le fait même que votre situation ne change pas change la gravité de votre situation. De sentir faim pendant une heure, c'est une chose. Sentir faim pendant 3 jours, c'est tout autre chose. Et c'est pour cela que nous entendons le peuple de Dieu crier dans les psaumes « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Donc ça, c'est une chose qu'il faut apprécier par rapport à leur situation. C'est le temps qui passe et les choses ne s'améliorent pas. Et puis l'autre chose qui est soulignée, c'est qu'il y a un changement de régime, mais sans amélioration de la situation. Regardez verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. » Alors, ça, c'est une bonne chose du point de vue de Moïse. Hein, le roi qui l'a condamné à la mort, il n'existe plus, il n'est plus là. Moïse pourra maintenant rentrer en Égypte sans craindre immédiatement pour sa vie, pourra revenir comme un prophète plutôt que, qu'un criminel échappé. Mais qu'en est-il des autres Hébreux? Calvin, il a l'observation qui il dit « Nous savons que l'espoir d'une issue plus heureuse apaise nos malheurs et l'espoir qu'une autre sorte succéderait aux tyrans morts adoucit dans une certaine mesure la misère du peuple affligé. » D'accord? Donc, il se disait, voyez la mort de... Ah ben, il va mourir bientôt, il est vieux, il va mourir, donc... Peut-être son fils, il va être mieux. Peut-être les choses vont changer. Donc peut-être un changement de régime en Égypte va permettre un changement à l'égard de la politique de l'Égypte envers les Hébreux. Mais que dit le texte, verset 23? « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient, comment? Encore sous la servitude. » Ça n'a rien changé. Et encore pire, ils se sont dit, on est reparti maintenant pour toute la durée de notre vie. Alors, avec l'élection présidentielle, on se dit, bon, on est reparti pour 5 ans. Mais quand c'est un nouveau roi, on est reparti pour toute la durée de sa vie. Et donc Calvin dit, nous savons que l'espoir d'une issue plus heureuse apaise nos malheurs, l'espoir qu'une autre sorte succédera aux tyrans morts adoucit dans une certaine mesure la misère du peuple affligé. Mais lorsque le changement de roi n'allégea en rien leur oppression, leur chagrin augmenta. Vous voyez, c'était, si vous voulez, leur dernière lueur d'espoir. Ils disaient, OK, avec le nouveau roi, les choses vont peut-être changer. Et le nouveau roi ne change rien. Ils sont dit, là, il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir. Est-ce que vous avez ressenti ce désespoir profond? C'est pas seulement que la situation est difficile, mais vous vous dites, ça fait des années que les choses n'ont pas changé. Et quand je regarde vers l'avenir, je n'ai aucun espoir que les choses vont changer dans l'avenir. Ça, c'est leur situation. Vraiment, il faut essayer de compatir avec eux, de sentir la détresse que ce peuple ressentait. Ils ne savent pas où est Moïse, hein. Même Moïse, bon, il est parti là depuis 40 ans. Mais qu'est-ce que ça suscite en eux? Notez, deuxièmement, les cris de détresse suscités par leur souffrance. Et regardez encore le verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. » Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Notez cette phrase. Ces cris que leur arrachait la servitude. Il y a un changement ici dans leurs cris. Face à ce désespoir, ils ont une autre sorte de cri, si vous voulez. Avant, il criait, avant, il pleurait, avant, il priait certainement, mais maintenant qu'il y a un nouveau roi, rien ne change, il n'y a plus d'espoir. Là, maintenant, il crie d'une autre manière. Et Spurgeon dit ceci, vous pouvez suivre. Il dit, la première chose à faire à l'égard des Israélites était de les rendre impatients de sortir d'Égypte. Car ce n'est pas la manière de Dieu de faire des hommes ses serviteurs, sauf dans la mesure où ils se soumettent volontairement à lui. Il ne viole jamais la volonté humaine, bien qu'il l'influence constamment et efficacement. Il dit, Yahvé ne veut pas d'esclaves pour honorer son trône. Et aussi, Dieu ne veut-il pas que le peuple soit traîné hors d'Égypte ou conduit dans les fers contre son gré? Non, il doit les faire sortir de telle sorte qu'ils soient disposés à sortir, qu'ils s'avancent avec joie et délice, étant complètement las et malades des huiles d'Égypte et se réjouissant par conséquent d'en sortir. Vous voyez ce qu'il dit, Dieu est en train de faire dans le peuple d'Israël, il est en train de les préparer. Parce que si un jour, quand tout allait bien, Moïse arrive et dit, ben, on va sortir d'Égypte, on va aller dans un autre pays. Croyez-vous que le peuple l'aurait suivi? Certainement pas. Parce qu'il a fallu peu de souffrance dans le désert pour qu'ils aient envie de retourner. Pour les pousser à sortir, Dieu doit les faire souffrir. Il faut qu'ils soient rendus désireux de quitter ce beau pays d'Égypte, où tout allait bien auparavant. Et je vous invite à garder votre place ici et trouver le psaume 107 et de noter ce schéma qui se répète dans ce psaume. Nous avons lu tout à l'heure le 106. Trouvez le psaume 107. Et dans ma Bible même, j'ai souligné parce que c'est une phrase qui revient. Alors, le psaume 107 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ok, mais comment est-ce qu'il va délivrer ces gens de la main de l'ennemi? Regardez le verset 4. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Et donc, verset 6, dans leur quoi? Détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur délivra de leurs angoisses. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Vous voyez, ils étaient dans les chaînes, ils souffraient à cause de leur désobéissance. Et verset 12, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Et puis, le refrain qui revient, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Regardez le verset 17, psaume 107, 17. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Vous voyez, c'est leur faute. Et ils souffrent maintenant. Leur âme était en horreur, avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Ils sont là, au seuil de la mort, ils sont presque morts. Et puis, finalement, dans leur, quoi, détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leurs angoisses. Regardez le verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montèrent, imaginez le bateau, hein, qui monte vers les cieux. et puis descendre dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Et là, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Et notez le dernier verset du psaume, « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Alors on peut retourner à notre texte, mais vous voyez le schéma. Qu'est-ce qui pousse les hommes à crier à l'Éternel pour qu'il les délivre? C'est chaque fois là, c'est la détresse. Alors on se pose cette question, où serions-nous si nous n'avions jamais connu la détresse? Mais non, honnêtement, avec le Seigneur, où serions-nous si depuis notre enfance, tout s'est très bien passé? Moïse dira plus tard, en Deutéronome 26 et verset 7, « Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. » Voyez, l'Exode était la réponse à la prière, en fait. Quand Dieu vient à Moïse, il dit « Tu vas aller en Égypte pour délivrer mon peuple », il a fait ça en réponse à la prière. Mais Dieu a poussé les enfants d'Israël à prier, on va dire grâce à leur détresse. Quand Dieu veut faire une grande chose, il pousse son peuple à prier. Et ce n'est pas une contradiction à la souveraineté de Dieu de dire que Dieu délivre son peuple en réponse à leur prière. Parce que vous rappelez peut-être que le timing était déjà planifié par Dieu. Dieu avait même dit à Abraham combien d'années le peuple allait rester en Égypte. Combien d'années? Tout était déjà prévu. Le timing était déjà en place. Mais pour agir, Dieu va pousser son peuple à prier, à crier. Et pour les pousser à crier volontairement vers lui, eh bien, il va les laisser souffrir. La souveraineté de Dieu inclut la prière comme moyen de son action. C'est toujours une bonne chose de se sentir poussé à prier. Quand on sent que l'Esprit commence à nous pousser à prier, ou il y a une circonstance là où on voit « Ouh, il faut qu'on tourne vers Dieu dans la prière », c'est toujours une bonne chose parce que cela veut dire que Dieu se prépare à œuvrer. Mais il attend nos prières. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Il veut que son peuple prie et il est prêt à tout faire pour les amener jusqu'à leurs genoux dans la prière. Et donc quand ce tyran est mort, le roi d'Égypte est mort, les enfants d'Israël n'étaient pas traités avec plus d'humanité, plus de compréhension. Et par conséquent, ils vont crier avec Dieu, à Dieu. Calvin dit ceci, « Lorsque ces divers changements de circonstances ont laissé la condition des gens inchangée, ou même l'ont aggravée, l'extrême nécessité a attiré cette lamentation inhabituelle et le désespoir lui-même les a poussés à prier. » Et puis, il ajoute, c'est pas qu'il n'y ait eu une négligence totale de la supplication à Dieu auparavant. Ils disent, c'est pas parce qu'ils ne priaient pas auparavant, certainement, il y en avait qui priaient, mais c'est parce qu'ils regardaient aussi dans d'autres directions. Il priait, oui Seigneur, mais aussi le roi qui va bientôt mourir. Et il y a aussi cette autre possibilité, Et j'ai aussi de la famille là-bas qui habite et ils vont peut-être m'aider. Il y a aussi cette autre possibilité. Vous voyez, ils prient, mais la prière est une option parmi plusieurs. Jusqu'à ce que tous les moyens terrestres sont entièrement coupés. Et là, ils furent forcés, poussés de force à chercher sérieusement l'aide d'en haut. Mes amis, je suis convaincu que Dieu agit de la même manière encore aujourd'hui. Et dans cet exemple, nous apprenons que la pression de nos circonstances, le chagrin qui s'alourdit, la douleur qui grandit, c'est pour nous pousser à aller vers Dieu comme notre seule aide. Jusqu'à quel point est-ce que Dieu doit nous faire souffrir avant que nous tournions les regards uniquement vers lui? Comme un serviteur envers son maître, comme une servante envers sa maîtresse, comme un enfant envers son père. Oh Dieu, nos yeux sont sur toi, que sur toi. Et Moïse déduit que c'est pas étonnant que l'aide de Dieu n'a pas été accordée plus tôt, parce que les enfants d'Israël étaient stupéfiés dans leur misère et n'étaient pas encore au point où ils pouvaient vraiment crier à Dieu pour son aide. Et c'est pour ça que nous arrivons à la fin du chapitre 2. Ça, c'est la fin de l'introduction. Dieu, tout est en place. Ils savent pas, hein. Moïse est déjà là. Il a déjà eu son éducation en Égypte. Il a déjà eu ses 40 ans maintenant dans le désert. Tout est préparé. La dernière chose à mettre en place, c'est les cris du peuple. Et il doit les amener jusqu'à ce point. Et puis, il va répondre. Calvin dit, laissons donc cet exemple nous apprendre à fuir immédiatement vers Dieu afin qu'il se hâte d'accorder sa grâce. N'attendons pas toutes les difficultés pour nous tourner vers Dieu. Le psaume 6 que nous avons lu tout à l'heure nous apprend, comme nous avons vu aussi dans le psaume 107, le psaume 106 et le psaume 107, que pour beaucoup les prières vers Dieu ne sont pas suscitées par une foi sincère en Dieu, mais par la détresse, et par le malheur, et par les difficultés. Il y avait une blague, mon père disait ça pour rigoler, mais parce qu'en fait, mon père pensait souvent à la prière. Perdait ses clés, une chose. Il n'y avait pas de place de parking. Quand on allait à l'église à Toulouse-Centre, il y avait rarement de parking. On priait, Seigneur, donne-nous une place de parking. Priait pour beaucoup de choses comme ça, mais parfois, il disait à. Ah, quelqu'un disait, bon, il faut qu'on prie par rapport à ça. Et mon père disait, ah, c'est si grave que ça? Parce que souvent, c'est notre pensée, hein. On ne pense pas à prier jusqu'à ce que ça soit vraiment, vraiment grave. Et je reviens à Spurgeon. Il dit, je veux utiliser ce sujet pour montrer à tous ceux qui, ici, ont des problèmes d'âme, et ne comprennent pas pourquoi ils ont tant de peine et de détresse. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez des détresses, des douleurs dans l'âme? Il dit, je veux vous dire que Dieu cherche à rendre ces personnes, à vous rendre, en fait, malades du monde, malades du péché. Et que par conséquent, il les met dans une condition d'esclavage spirituel afin qu'ils soient disposés à sortir d'Égypte. Oui, afin qu'ils puissent d'ici peu et avec la plus grande joie et l'allégresse quitter le pays de leur captivité. C'est comme le fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Il quitte son père, il va dans un autre pays, il pense pas à son père. Il a ses amis, il a ses fêtes, la vie est belle. Qu'est-ce qui va le ramener à penser à son père? Qu'est-ce qui va le faire vouloir venir de son propre gré, revenir à la maison? Qu'est-ce qu'il faut dans sa vie? Il faut la souffrance. Il faut la perte de son argent. Il faut la perte de ses amis. Il faut la perte de sa santé. Il faut la perte de sa situation régulière au travail. Il faut qu'il soit amené jusqu'au fond de lui-même. Il se trouve avec des cochons. Presque rien à manger. Et là, finalement, la Bible dit qu'il revient à son bon sens. Et je dis avec assez de régularité à mes propres enfants que moi, je ne désire pas avant tout une belle situation de la vie pour eux. Mais que Dieu fasse tout ce dont il a besoin pour les ramener vers lui. Hein, je vous assure, dans les années qui suivent, et ce fils qui est parti loin de son père ne regrettait pas sa souffrance. Il pouvait dire comme le psalmiste, « Avant d'avoir souffert, je me suis égaré, mais maintenant je suis ta loi. » Mais qui ici est tellement têtu? Vous dites, « J'aime encore mon péché. » Le péché pour moi, ce n'est pas l'esclavage. Le péché pour moi, c'est les délices. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour vous amener à déplorer votre esclavage et à sincèrement chercher la liberté? Mais moi, je prie que Dieu le fasse avant que ce soit trop tard. Nous voyons cette situation difficile. Ces cris de détresse, mais nous voyons la réponse de Dieu, qui est la compassion divine. Et cette compassion est soutenue par une alliance. Notez cela dans le verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Donc ça, c'est leur circonstance difficile. Ils poussaient des cris que leur arrachait la servitude. Ça, c'est donc leur cri de détresse. Et ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Et puis, nous avons quatre choses par rapport à Dieu ici. Dieu entendit leur gémissement, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voyez ce qu'il dit de Dieu, verset 24. Dieu entendit, il se souvint, il regarda et il eut compassion. Donc il y a des circonstances difficiles, il y a ce cri de détresse, mais ce qui va tout changer, c'est la compassion divine. C'est que Dieu écoute, qu'il regarde, qu'il voit, qu'il a pitié, qu'il se souvient. Et notez, il y a deux pères ici. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Nous, on veut dire, mais comment est Dieu? Comment est Dieu face à tout ça? Vous voyez, Dieu entendit leur gémissement et il se souvint. Ça, c'est une paire. Et puis la deuxième paire, Dieu regarda et il en eut compassion. Donc, quand il dit que Dieu entendit et que Dieu regarda, hein, la première de ces deux paires, cela parle de son omniscience. Hein, Dieu entend, il regarde, il voit, il sait. Et quand il dit que Dieu se souvint de son alliance, ça c'est en parallèle avec le fait qu'il eut compassion. Et ça, ça parle de son action. D'accord? Donc, il y a ces deux choses que nous voyons. D'abord, Dieu regarde et il écoute. Et implicitement, la question, la plus grande question ici, n'est pas de savoir si ou comment les gens souffrent. La question qui se pose, c'est est-ce que cette souffrance se passe inaperçue? C'est-à-dire, est-ce que Dieu entend réellement? Est-ce qu'il voit vraiment quand je souffre? On souffre tous, on le sait, mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu entend? Êtes-vous convaincu de la réponse? Êtes-vous convaincu que Dieu entend et qu'il voit? Vraiment. Regardez chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit quoi? J'ai J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le psalmiste dit dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel, il entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il dit plus tard dans le même psaume, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses yeux et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près. Donc il n'entend pas de loin, il entend de près. Il ne voit pas de loin, il regarde de près ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et comme ce psaume vient de dire, l'Éternel fait plus qu'entendre, il agit. C'est ça la beauté. Il agit. Dieu se souvient de son alliance pour avoir compassion. OK, donc revenons à ces deux pères que nous avons vus en Exode. Là, il dit quand Dieu entend, ou Dieu entendit, et Dieu regarda. D'accord? Ça parle de son omniscience, il a vu, il était conscient. Mais après, il dit, Dieu se souvint et Dieu en eut compassion. Cela parle de son action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu se souvient? Pour nous, quand on se souvient de quelque chose, ça veut dire que c'est la fin de l'oubli. On avait oublié quelque chose et... Ah oui! Mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas penser à Dieu comme ça. Qu'il se dit... Ah oui, j'ai fait une alliance à Abraham il y a 400 ans. J'ai complètement loupé. Il faut que je fasse quelque chose. Ce n'est pas de tout ça que Dieu n'est pas comme ça. On peut comprendre ce que ça veut dire de souvenir en pensant au contraire. Le psalmiste, par exemple, parle du fait que Dieu l'oublie. Okay? Mais il lui parle, donc c'est impossible que Dieu lui... l'oublie, s'il peut lui parler en même temps. Quand le psalmiste dit « Dieu, tu m'as oublié », ça veut dire qu'il n'est pas là pour aider, il n'est pas là pour agir. Et donc, par conséquent, quand nous disons qu'il se souvient, nous marquons le fait qu'on réalise qu'il agit en notre faveur. Nous voyons dans ça dans le psaume 25 qu'on a lu tout à l'heure. L'Éternel, il dit « Souviens-toi de ta... miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Souviens-toi. » Et après, il dit ceci, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. » Alors, il ne veut pas dire par cela, « Oublie comme si tu ne viennes pas à la tête, parce que sinon, il ne le dirait pas. Je ne vais pas dire tous les jours, « Ne te souviens pas que je te dois 100 euros, Yvonne. » Puis demain, « Ne te souviens pas que je te dois 100 euros. » Ça serait contre-productif, n'est-ce pas? Non, quand il dit « ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse », il dit « ah mince, tu viens de rappeler de mes fautes ». Non, ce n'est pas comme ça qu'il parle à Dieu. Quand il dit « ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions », on voit ce qu'il veut dire par la phrase juste après. Il dit « souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta bonté ». Donc quand tu te souviens de moi, quand tu agis envers moi, ne le fais pas en pensant, en regardant mes fautes. Souviens-toi de moi en pensant à ta miséricorde et à ta bonté, pas à ma justice, à mes péchés. Et notez donc cette très belle prière. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. C'est exactement ce que Dieu fait dans notre texte. Verset 24, Dieu entendit leur gémissement. Et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. On peut le dire presque comme cela. Il va se souvenir d'eux selon son alliance. Il va penser à eux dans le cadre d'une alliance. Et ce mot Zakar, d'où vient Zacharie, veut dire se souvenir. Ça parle souvent de l'application de l'alliance plutôt que simplement le souvenir. Alors moi, je peux me souvenir de quelque chose sans acter là-dessus. Mais Dieu se souvenir de son alliance et acter dessus, c'est de l'appliquer. Donc, ça revient à dire que Dieu a décidé d'honorer les termes de son alliance à ce moment-là. Et il se souvient de son alliance, il dit, avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça démontre que c'est une alliance qui perdure dans le temps, pas seulement envers Abraham, mais envers son fils et envers son petit-fils. Et Dieu va agir maintenant avec eux dans le cadre d'une alliance. Vous savez que Dieu agit toujours envers l'homme dans le cadre d'une alliance. Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Il joue comme ça un jour, il est là comme ça un autre jour. Il agit envers nous dans le cadre d'une certaine relation. Et c'est pour cela, s'il y a un mari parfait, on peut savoir comment le mari va agir, parce qu'il est mari, c'est son mari. Si c'est un parent ou une mère parfaite, on peut prédire comment elle va agir, parce qu'elle va toujours agir dans le cadre du fait qu'elle soit mère de cet enfant. Et Dieu, quand il agit envers nous, il agit toujours dans un cadre, dans le cadre d'une alliance. Et donc, il va venir envers ce peuple. Il va dire, OK, je vais agir envers eux dans le cadre d'une alliance. Une alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme ça que je vais agir envers eux.